Bonsoir tout le monde, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'entretien. Chaque soir, nous recevons les artistes dans l'actualité culturelle. L'émission s'appelle Par les temps qui courent et ce soir, on est avec Luz.
Un tango, une danse, un baiser.
Du bouta, pépé, tépé.
Par les temps qui courent.
Ça y est, puis va-t-il bien.
Avec Luz.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
À l'époque de l'an 1, on croyait que chaque chose, chaque action, tout ce qu'on pouvait avoir sous la main ou presque, permettait de changer le monde. Et il n'a pas changé tant que ça. Et tu crois que c'est devenu impossible désormais ? Non, je pense juste qu'on ne sait pas toujours ce qui peut changer le monde. Un dessin, un film, une manif, un poème, une voix, le tricot. L'important, c'est d'essayer. En tout cas, quelques dessins à moi ont bien changé la vie d'un ado tourangeau et c'est déjà pas mal. Et puis, il faut être honnête, on dessine plus pour soi que pour les autres, pour se lire soi-même et être lu et ne pas être seul. On dessine des idées, mais parfois ce sont les idées qui nous dessinent et parfois, en dessinant, on rencontre les idées des autres. C'est GB, cigarette au bec, qui vous glisse ses quelques réflexions au milieu des slogans « Debré passe quoi, même combat », en pleine manif, en plein dans les années 90, vous êtes alors tout jeune dessinateur, Luz, et vous racontez ces années dans votre dernier livre paru aux éditions Futuropolis, dont les couleurs sombres d'une nuit presque sans sommeil, c'est votre Charlie Hebdo qui revient et qui s'inscrit pour mémoire, pour raconter, pour transmettre peut-être. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bonsoir à vous et bienvenue. Indélébile, c'est donc ce livre-là qui paraît chez Futuropolis. Comme il répond, en tout cas il suit à Catharsis, je le cite aussi, il est aussi chez Futuropolis. On va aller direct, 1992, chez la Grosse Bertha.
Alors ce dossier, on leur donne comment? Ça y est, on sait, on met les courants, les transcourants, les...
Oui, etc. Et on fait ça. Et alors comme texte, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça le problème. C'est tout.
Il faut que chaque dessinateur explique le courant
qu'il choisit. Le ou les courants. Il faut qu'il soit pédagogique, le dessinateur. Il faut que le dessinateur...
Féroce, faut être teigneux, hargneux...
Ah, il a dit féroce, j'ai noté.
Oui. Teigneux, méchant et injuste.
Tout ça en dessin.
Oui, c'est ça, voilà.
Ça serait vachement bien, tu sais, il y a toutes les têtes de courant, quoi, tous les responsables de courant, quoi. Et puis, ça se transforme en une espèce de nœud de vipère incroyable, tu sais, un nœud de serpent, quoi.
Tu dois faire le dessin central
avec la tête de Fabius.
Avec tout ce que tu dis là.
Tu sais, un dessin, comment ça s'appelle?
La maxi-tête.
Oui, voilà.
Comme Archimboldo avec les légumes.
Voilà. Que le nœud de vipère fasse la tête de Fabius.
Voilà, ouais. C'est une tête de nœud. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Depuis 2 heures, on tourne dans ça. Tête de nœud.
Tête de nœud, président. Vous avez noté la particule.
Ah, un grand moment. Je l'ai dans mes archives.
J'espère bien. Bien, dis donc, qu'est-ce que t'en penses? Un truc comme ça, quoi.
Très bien. Il va nous traiter ça très bien.
C'est-à-dire les queues partiront des têtes et puis les têtes de serpents seront au milieu, ça sera...
Tu vois, son crâne, là.
Ouais.
Hop, là, son nez. Ça... Tu sais, il est tout en boudin, ce mec-là.
Oui, je le vois bien. Bon, alors. Si tu me dis que je peux le faire, Camus, je te crois.
Si, je te connais.
Bon. Très bien, je vais partir tout de suite. Parce que...
Allô, maman? Oui, c'est Reynald. Oui, très bien. Très, très bien. Figure-toi que j'ai rencontré Cabu et que grâce à lui, je vais publier mon premier dessin dans la presse nationale. Oui. C'est ça, Cabu, le dessinateur. Oui. Oui, il est très gentil. Comme à la télé, c'est ça. Oui. Tu peux me passer papa? Non, je n'ai pas vu Dorothée. Oui, merci. Moi aussi. Tu peux me... Oui. Je rentre de... Non. Tu peux... Allô, papa? Faut que j'achète un fax. Putain, j'y crois pas. Putain, je plane total. Putain, je suis encore perdu.
Voilà, c'est Romain de Bec de Lièvre qui a eu la dure tâche d'ouvrir et de lire un extrait de votre livre Indélébile. Et juste avant, on était projeté dans peut-être l'image sonore que vous aviez en tête au moment où vous passez ce coup de fil à vos parents.
Oui. Bah, la seule différence, c'est que les espaces de silence où moi je n'arrive pas à répondre parce que ma mère parle beaucoup trop sont beaucoup plus longs que Romain les a fait. Mais c'est exactement ça. Et puis là, c'était marrant de se replonger dans les années, donc Grosse Bertha, c'est ça en
ouais.
fait ouais c'est ça ouais ouais
tout début des années 90, parce que Indélébile s'ouvre avec ça.
Oui, bien sûr, bien
vous
sûr.
Débarquez à Paris pour une journée, vous avez un gros planning.
Oui, j'ai un énorme planning. Je veux faire parce que aussi à l'époque il y a plein de journaux qui publient des dessins. Bon, il y a le Carnet Enchaîné bien sûr, mais il y a Libé, Le Monde, je sais plus quoi, il y avait peut-être même Globe, il y avait un autre truc aussi, il y avait la Grosse Bertha et encore autre chose peut-être. Je voulais voir le Paris. Bon, bref. Et puis, comme j'étais tourangeau, provincial, de la région, eh bien, je me suis paumé dans les couloirs du métro et j'ai mis une journée entière à trouver les locaux du Canard Enchaîné, qui eux-mêmes, après, m'ont renvoyé à l'imprimerie du Canard Enchaîné. Et puis voilà, il était à peu près, je crois, 4h30, 5h, quand j'ai commencé à rentrer sous le porche. Qui ouvrait vers l'imprimerie du Canard, et j'ai vu un type en duffel coat en plein mois de juillet, moi-même qui étais en impair en plein mois de juillet, donc déjà il y avait un cousinage évident. Et puis je me rends compte, je me dis mais cette coupe au bol, ce machin, ces lunettes, évidemment c'est lui, c'est Cabu. Ok, et j'ai pas eu beaucoup de courage dans ma vie, mais j'ai au moins eu celui-là, c'est-à-dire de me retourner et d'aller l'accoster. Et lui, qui n'était pas très compliqué à accoster non plus. Et voilà, l'aventure a commencé là. Et puis, j'ai publié mon premier dessin, il m'a envoyé. En fait, on a continué à se balader. Il m'a envoyé on est parti ensemble, on a pris le métro ensemble pour aller à la Grosse Bertha, parce qu'il me disait, mais Canard Enchaîné, c'est pas, faut pas aller au Canard Enchaîné.
C'est le journaliste qui décide.
Tandis que... À la Grosse Bertha, ce sont les dessinateurs qui décident et qui dessinent. Et là, moi, j'étais... Là, je savais pas où ça m'emmenait, tout ça. Je savais pas où ça m'emmenait. En tout cas, je savais que tout d'un coup, j'avais très, très chaud sous mon imperme. Et puis, voilà, premier dessin publié à l'époque des charters de Cresson. C'est un dessin que j'ai oublié de publier, d'ailleurs, dans le bouquin. Mais c'est pas très grave, parce qu'il est décontextualisé, complètement incompréhensible.
Pourtant, ça vous vaut un sésame, hein, parce que tout le monde se marre, et puis en gros, on vous dit, ok, très bien, on fait de la place dans le journal, et assieds-toi, si t'as encore des idées, tu peux continuer à dessiner.
Exactement, ouais. Alors je me suis assis, j'ai essayé de continuer à dessiner des idées, mais j'en avais aucune, et c'est juste ce dessin-là qui est sorti. Et puis en plus, très honnêtement, je me suis dit, Cabu, quel flair, quoi. Enfin, moi, j'aurais jamais publié ce dessin, en fait. Si un type était venu avec le dessin que j'avais fait, j'aurais trouvé ça tout pourri. Je pense qu'il y avait et ce truc aussi chez Cabu, qui était même chez un peu les autres aussi, c'était de fallait que le dessin ait une valeur, en tout cas pour tout nouvel arrivant, mais il fallait donner un petit coup de pouce. Et en même temps, c'était très, très exigeant. Ça a toujours été très exigeant. Je pense encore, là encore, à Charlie, ils sont encore très, très exigeants pour accueillir des nouveaux dessinateurs ou dessinatrices. Il y a des choses, par exemple, qui... C'était Cabu qui disait... il brassait tellement l'ensemble de la palette du dessin, le reportage, le dessin satirique, la bande dessinée, etc., que forcément c'était lui qui pouvait voir, qui avait l'œil, et c'est surtout lui qui avait la patience, parce que le nombre de dessinateurs que j'ai vus qui sont passés dans les locaux de Charlie, qui sonnaient un peu au hasard, parce que rien de plus facile que de rentrer dans les locaux de Charlie, ça a toujours été le cas, et tout d'un coup, il y avait un type qui était là, il dit « Ouais, j'ai rendez-vous avec Cabu ». Alors, on n'était jamais sûr qu'il avait rendez-vous avec Cabu, mais tout d'un coup, Cabu était là, il regardait ses dessins, il donnait des conseils. S'il voyait que précisément, c'était surtout le, il y avait plein de choses, mais le graphisme, le lettrage. métrage. C'est quelque chose de très, très important.
D'ailleurs, vous mettez ça dans sa bouche, hein. Ouais, le métrage, ouais. C'est important et tu vas voir, ça va l'être. Et c'est vraiment quelque chose qui nous plonge très directement dans ce qui va être au cœur de Indélébile, c'est qu'est-ce que c'est que dessiner?
Oui.
Pourquoi on dessine? D'où ça vient de passer sa vie à faire ça? Parce qu'on voit quand même beaucoup de personnes autour d'une table qui est le plus souvent en U, mais qui, au fur et à mesure des trous de mémoire, des angoisses, des transformations, peut prendre parfois d'autres formes. Mais on voit vraiment des gens qui sont agités par ça, qui sont obsédés par l'idée de dessiner. C'est vraiment quelque chose qui est très très présent. Est-ce que c'est la raison, ou c'est ce qui vous donne l'énergie, de commencer Indélébile? De se dire, je vais essayer de dire ce que c'est que passer une vie à dessiner.
Oui, je pense que c'est, ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de qui vient depuis, qui vient même presque d'ailleurs. Il y avait plein de raisons pour commencer Indélébile, mais dont une, c'est de regarder ma fille dessiner.
Ça sent. Elle est tellement, c'est très étrange de vous dire ça, mais je veux dire, on a vraiment l'impression, c'est pour ça que j'ai osé un petit pour transmettre, mais
ouais.
On a vraiment l'impression de quelqu'un qui veut dire, ok, je vais passer l'histoire, quoi.
Déjà, moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont transmis des choses. Cabu, GB, ils m'ont transmis quelque chose. Le seul truc qu'ils m'ont pas transmis, c'est l'amour du dessin. C'est l'espèce de mystère, cette chose un peu curieuse qui est pourquoi on a envie de continuer. Pourquoi on a envie de traduire le monde devant une page blanche, prendre des crayons, de l'encre.
Avoir les mains noires, là.
Avoir les mains dégueulasses, comme j'ai aujourd'hui, avec des accidents domestiques. Quand je regarde ma fille dessiner, elle barbouille, mais pour moi, je me dis, il y a quelque chose. Alors, je pense qu'il y a il y a toujours quelque chose dans un dessin d'enfant. En fait, le grand mystère, c'est pourquoi la personne continue après. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que les enfants, ils dessinent, on les oblige déjà à l'école à faire des ronds, des machins, etc. Alors moi, je suis très laxiste avec ma fille. Moi, je laisse dessiner vraiment n'importe quoi. Une fois, on était chez mes parents et mon père voulait faire un carré, tout ça, avec elle. Moi, je dis, mais laisse-la tranquille. Puis elle a fait un énorme gribouillis, etc. Et moi, je me dis, oui, le dessin, il est là. Le dessin, c'est la liberté. Et la liberté, c'est pas forcément dessiner quelque chose. La liberté, c'est dessiner pour dessiner. Et j'avais peut-être envie de parler de ce truc-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce mystère de dessiner pour dessiner? Je dirais que ce bouquin, enfin, pour moi, c'est tentaculaire, les raisons pour lesquelles je l'ai fait. Il y a aussi ce truc, on l'a entendu dans l'extrait audio que vous avez passé, c'est l'atmosphère, en fait. Cette atmosphère de travail, de rigolade. Alors là, on a beaucoup entendu Val qui causait parce qu'il
y avait un micro.
Parce qu'il y avait un micro.
On s'est dit dans l'archive que c'était quelqu'un qui causait pour le micro.
Ah oui, c'est quelqu'un qui causait pour le micro. Non, en plus, c'est un document parce que c'est à l'époque où il était de gauche. Donc c'est plutôt intéressant. On a senti déjà dans cet extrait, les échanges, la manière dont les uns et les autres, parce que là on était sur une couverture possible que Gémé était en train de faire apparemment, et les conseils que les uns et les autres se donnaient, les pistes que l'on échangeait, que l'on soit dessinateur ou pas dessinateur, parce qu'il y a aussi ce truc-là, c'est comme Charlie ou La Grosse Bertha étaient des journaux, des journaux
hétérogènes dans leur composition aussi.
Oui, complètement. Et aussi motivés par ce truc qui était quand même le climax du bouclage. C'était quand même la une. C'est toujours un peu le climax dans les journaux, mais là c'est précisément, je sais pas, quand l'Obs, j'en sais rien, quand ils font la vie des francs-maçons, etc. Il y a pas de climax dans la couverture. Ils savent très bien, enfin, le sujet est déjà là depuis, c'est un marronnier qu'ils ont déjà choisi depuis l'année dernière. Tandis qu'à Charlie, il y avait toujours ce truc de se dire, attention, il y a une actualité, il faut être dedans, en plus, c'est 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, donc il y a une espèce d'angoisse. Et c'est le dernier truc, c'est le dessin. Le dernier truc, la fin du bouclage, c'est le dessin. Et ça impliquait tout le monde. Ça impliquait tout le monde. Alors peut-être des fois moins, des fois on était plus fatigué, des fois on ne trouvait pas cette putain de une, parce que c'était ça aussi. Et donc on accumulait ce qu'on appelle toujours des échappées, des couvertures, les fameuses couvertures auxquelles
vous avez possible, ouais.
Une possible. Et puis il y avait cette espèce d'incroyable, comment dire. Moi, j'ai toujours vu ça comme une espèce de mur d'alimentation. Je suis jamais allé devant le mur d'alimentation. Je suis pas sûr que j'irai un jour, mais il y avait cette idée de que tout le monde était devant ce mur rempli d'une espèce de mosaïque de dessins. Et puis, ah non, un petit peu comme ça, se secouant la tête en se disant c'est peut-être celle-ci, mais c'est peut-être pas celle-là, etc. Bon, c'est peut-être pas forcément ce qu'on fait devant le mur d'alimentation, mais il y avait une espèce de communion, y compris chez les réacteurs, etc., de trouver le bon dessin. Mais le bon dessin, ça voulait dire...
Ça veut dire un peu tout, quoi, à la fois le texte, le titre, le dessin, mais ce qui fait que ça vous fait dessiner l'use des scènes où plein de gens regardent plusieurs dessins en même temps,
ouais,
en parlent, se marrent, travaillent. C'est vraiment quelque chose qu'on voit dans Indélébile, c'est un travail, mais qui est... Mais permanent, qui est peut-être dans la joie, les engueulades, etc., mais permanent. Tout à l'heure, vous disiez, c'est tentaculaire, les raisons d'écrire Indélébile. Est-ce que l'une des raisons, c'est que, en fait, ça n'a pas été dit au milieu de l'océan médiatique autour de Charlie Hebdo? Ça n'a pas été dit, et ça vous tenait à cœur de le dire.
Absolument. Absolument. Quand j'ai... J'avais l'impression... j'avais l'impression que plus on parlait de... Il y a eu le 7. Ça a tout foutu par terre, une équipe, des psychologies, et ça a surtout enfermé, cryogénisé les gens, enfin le Charlie, enfin l'idée de ce qu'est un journal, de ce qu'est Charlie, dans une espèce de symbolique qui, moi, me
en tout cas, c'était lourd à porter. Ce que vous avez écrit dans Indélébile et dans
Catharsis. C'est lourd à porter, mais c'est surtout, voilà, Charlie, c'était, et je pense que c'est toujours un journal bouillonnant. Et tout d'un coup, hop, c'est figé dans la glace, c'est figé dans le béton d'une tragédie. Et il y avait peut-être une... Après, il y a eu des gens qui ont écrit, même avant, des gens qui ont écrit sur Charlie, les bagarres, les machins, tout ça, mais il y a cette nécessité de dire, en fait, on s'est marré. En fait, on s'est marré. Ça paraît presque étrange de dire ça maintenant. À cause de ce foutu drame... qui nous a foutu tous par terre. Ben non, pour recoller les morceaux, il faut juste regarder derrière, se réapproprier ce putain de passé, et de se dire, mais non, mais c'est je regrette pas ce passé. Je regrette pas une seule fois, une seule seconde ce passé.
Se réapproprier, c'est-à-dire, par exemple, comme vous le dessinez, l'us passer des nuits blanches à laisser revenir les gens, à laisser revenir les rires, à laisser revenir ses réunions, à laisser revenir les manifs, à laisser revenir les souvenirs.
Oui, parce que il y a en fait au moment après le une des raisons pour lesquelles je suis parti de Charlie, c'est parce que il y avait cette idée que je pouvais plus travailler, parce que quand on faisait une réunion de réaction après le 7 janvier, enfin quelques mois où je suis encore resté, j'avais l'impression de convoquer mes fantômes. Il fallait que je convoque, que j'imagine que Charb avait fait tel dessin, que Kaby avait fait tel dessin pour pouvoir avoir le mien en regard.
Un dialogue, quoi.
Ouais, un dialogue, exactement, un dialogue. Et quand il a fallu, je sais pas pourquoi je dis il a fallu, mais il y a eu une nécessité, en tout cas pour moi, de faire ce bouquin Indélébile, il a fallu que j'aille retourner vraiment les voir, nous voir, me voir au milieu d'eux, mais sans cette logique fantomatique, c'est-à-dire retourner dans le passé pour lui donner une forme de réalité. En fait, que ce soit pas un passé qui soit vu derrière une glace sans teint, en fait. Le 7 janvier, c'est ça, c'est une espèce de glace sans teint. Et à un moment donné, boum, il fallait briser cette vitre.
C'est et vous faire repousser les cheveux.
Et me refaire repousser les cheveux. Parce que ça, c'est aussi un truc marrant, c'est que je crois que j'ai pris un plaisir énorme à me dessiner à l'époque quand j'étais quand j'étais un jeune dessinateur qui connaissait pas encore la beauté de l'érotisme, etc., qui était encore un peu dans ses, voilà, qui était un peu encore dans son jus d'adolescent.
Qui se voit envoyer un fax très très long d'une énorme bite par fax.
Oui, oui, ça, c'était un gag
de bienvenue.
De Charb. Un des nombreux gags de Charb. Il y en a, c'est, évidemment, en fait, il y a plein de, enfin, c'est 320 pages, mais c'est
une sélection, j'imagine.
Plus qu'une sélection, c'est ridiculement petit par rapport à 23 ans. Même par rapport à 23 ans de blagues. Mais celle-là avait du sens, c'est-à-dire, Charb avait trouvé le moyen d'utiliser, en fait, la technique du dessin pour faire une blague de potache absolument ultime, où tu rentres après chez toi et tu te retrouves avec mon appartement de 10 mètres carrés à l'époque était envahi d'un énorme sgeg sur un rouleau de fax. C'est assez difficile à imaginer, je pense qu'il fallait raconter ce truc-là. Après, c'est un truc bizarre parce que c'est à la fois Charlie, c'était pour moi, c'est à la fois le bureau, mais c'est aussi le lieu d'une forme de récréation. Des fois, c'était chiant aussi d'y aller, il faut reconnaître. Quand on n'a pas d'idée, quand on s'est un peu engueulé avec les copains, ou alors qu'on n'est plus... qu'on est fatigué parce qu'on rentre de reportage et qu'on n'a pas envie de se replonger. Ou même, on n'a pas envie de se replonger dans la politique, par
dans
exemple.
Dans l'actu. On sent ça aussi, c'est très très présent. Hein.
Ouais, parce qu'il n'y avait pas que l'actu. Heureusement, il y avait des reportages, il y avait d'autres choses, on pouvait... Mais c'était quand même le truc principal. Et d'être dessinateur satirique, ça veut dire vivre avec son sujet aussi, en permanence. Donc c'est vous écoutez, vous achetez des journaux, vous écoutez la radio, et puis voilà, si vous voulez faire un bon dessin sur Sarkozy, il faut écouter quasiment tout ce qu'il dit. Vous vivez avec Sarkozy, vous vous réveillez Sarkozy, vous couchez Sarkozy. Il est avec vous, quoi. Ça, au bout d'un moment, ça devient insupportable.
Mais c'est d'ailleurs le contre-pied d'Indélébile, c'est que d'un seul coup, vous ne dessinez quasiment que des gens que vous avez aimés.
Exactement. Oui, c'est ça. J'avais besoin de... Vous savez, il y a un truc, enfin, je sais pas si vous savez, mais moi j'ai arrêté de dessiner Sarkozy en 2000, je crois, 11. Et Cabu était genre désespéré. Il dit, mais c'est ton métier, c'est de te faire chier justement à dessiner les imbéciles. Et je dis, non, là j'en ai marre, je peux plus, ça me bouffe, ça me. Il y a déjà une première distance qui était, que j'avais créée en me disant, bon, j'arrête définitivement de dessiner Sarkozy. J'avais écrit un petit truc dans Charlie pour dire au lecteur, si jamais vous me voyez dans une dédicace dessiner Sarkozy, vous me foutez une claque.
C'est aussi parce que c'était devenu une sorte de gimmick. On vous tendait un livre à dédicacer, vous saviez pas trop quoi faire, vous dessiniez Sarkozy.
Ouais, c'est un mécanisme. Mais ça, par exemple, les dédicaces, c'est quelque chose qui me manque vraiment beaucoup parce que, en fait, quand j'ai pas d'idée pendant les dédicaces, si j'ai vraiment pas d'idée, je dessine Sarkozy, mais en général, ce sont plutôt les gens qui viennent vous voir. Et du coup, ce portrait, cette technique du portrait à charge, advient quelque chose d'un peu différent, parce que vous dessinez quelqu'un qui est plutôt sympathique, mais parce qu'il est sympathique...
Il va prendre très cher.
Il va prendre très cher. Et ça, c'est la base, je pense que c'est la base du dessin...
Il va prendre très cher, et si ça marche, il va rigoler.
Et si ça marche, il va rigoler. En général, si ça marche, les gens autour vont rigoler. Et lui n'a plus qu'une chose à faire, c'est de rigoler lui-même. C'est comme ça que ça marchait dans les réunions de famille où je dessinais. C'est que de toute façon, même si je dessinais le tonton nazi avec un petit peu en me foutant un peu de sa gueule, bah il était obligé de reconnaître qu'il y avait peut-être quelque chose qui était juste. En fait, c'est ça aussi la problématique du dessin. On dessine pas forcément pour faire de la ressemblance, on dessine pour être juste. Et être juste, c'est pas c'est pas uniquement dire que quelqu'un est un salaud, par exemple. C'est plutôt remettre en cause, puisqu'on est dans un monde de l'image et les hommes politiques sont dans un monde de l'image, c'est d'utiliser ton propre prisme pour tordre cette image qu'ils utilisent.
D'ailleurs, s'il y a une très forte dimension de transmission à plein d'échelles différentes et comme vous le disiez, très tentaculaire, Luz, il y a une idée d'une grande complexité tout le temps. C'est-à-dire que ce livre-là, je trouve que c'est une ode à dire que les choses, elles sont un peu plus compliquées qu'on aimerait le croire parfois. Elles sont un petit peu plus, il y a plus de pistes possibles. Parfois, on est à la fois heureux, très très malheureux, en train de jouir et peut-être en train d'être en dépression. Tout est possible en même temps, quoi.
Ouais. Ah oui. Mais je pense que c'est aussi un bouquin que j'aurais pas pu faire s'il y avait, enfin, je me suis posé la question il y a pas très longtemps, de savoir comment j'aurais fait un délibile s'il y avait pas eu tout ce bazar, enfin ce...
Vous voulez dire s'il n'y avait pas eu l'attentat?
S'il n'y avait pas eu l'attentat.
Ah voilà. Oui.
Est-ce que vous auriez
ressorti les archives de cette époque-là?
De quelle manière?
Tout votre parcours?
Surtout de quelle manière? Est-ce que j'aurais parlé finalement de cette complexité-là? Peut-être que j'aurais été emmené, puisque les copains auraient été toujours vivants, peut-être que j'aurais été amené à raconter beaucoup plus de blagues de bureau, finalement. Peut-être.
Pour les faire marrer?
Oui. Pour les faire marrer eux. Ouais. Pour leur rappeler le souvenir de cette époque-là. Alors, il y a aussi peut-être un truc qui est... J'ai vu Rhys, qui s'occupe de Charlie maintenant, le dessinateur, qui je ne savais pas trop comment il allait prendre ça, parce que... Voilà, je savais pas trop comment les copains et les copines allaient prendre ce travail-là, parce que c'est un peu bizarre, quoi. Ça parle d'eux, enfin, je dessine les autres. J'étais un peu, pas inquiet, mais je intrigué, quoi, par leur réaction. Et Rhys m'a dit, c'est super! Parce qu'il est très, très volontaire comme ça. C'est super, c'est un document. Et c'est pas complètement faux, en fait. C'est qu'il y a pas de on a des, il y a des documentaires sur la presse, sur Le Monde, sur Libération ou Mathieu Zappin, par exemple, qui a fait des trucs là-dessus sur comment ça marche. Mais il n'y a pas de documentaire sur qu'est-ce que c'est qu'un journal d'une équipe de presse qui est mue par cette jouissance autour du dessin. Parce que il n'y a pas beaucoup d'organes de presse qui ont ça aussi. Donc, on ne sait pas ce que va donner le papier dans quelques années.
Et pourtant, Dieu sait qu'il est présent dans un des livres. Il y en a un qui est en pleine page, on l'a entendu tout à l'heure, vous racontiez votre rencontre, c'est Cabu. Bon, on l'écoute. Ah.
C'est vrai que je dessine à la plume, comme beaucoup de dessinateurs, parce que ça donne un dessin plus nerveux que court-feutre, si vous voulez. Mais pour faire des croquis, pour aller plus vite et pour pas me promener avec un encrier d'encre de Chine, j'utilise aussi le feutre. Mais la caricature, moi, je sais pas très bien comment ça se fait. Je sais que il y a des personnages qui sont plus ou moins difficiles à croquer parce que leur grimace est plus difficile à débusquer. C'est ça la caricature, hein, c'est trouver la grimace. Donc, mais quand une nouvelle tête apparaît, je le regarde à la télévision, parce que là, dans un débat, vous l'avez sous les yeux pendant une heure, vous avez le temps de le croquer. Et pour les idées, ben vous savez, c'est en écoutant la radio, en lisant les journaux, et je fonctionne un petit peu à l'indignation ou à la... L'indignation, c'est peut-être un grand mot souvent, mais en réaction contre ce que j'ai entendu ou ce que j'ai vu, vous voyez, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer, et ben j'en profite. La caricature, à mon avis, c'est de faire plus vrai que vrai. C'est le dessin humoristique aussi. On stylise, on épure, si vous voulez, pour faire plus vrai que vrai. Et pour aller vite dans quand pour une nouvelle tête, si vous voulez, je cherche toujours le sosie, ou si les yeux ressemblent à les yeux d'un tel, oui, en gros, je pense qu'il y a une quinzaine de types humains, et puis je fonctionne comme ça, je me dis, est-ce qu'il a le haut du visage qui ressemble à De Funès, ou est-ce qu'il a le bas du visage qui ressemble à Depardieu? Vous voyez, c'est comme ça, c'est par approche comme ça. Parce qu'on a tous des parties du visage qui ressemblent à tel ou tel. Vous savez, le lecteur, il consacre 3 secondes à un dessin, s'il ne reconnaît pas le personnage en question, ben il passe quoi. Donc c'est raté. Il faut que tout de suite on reconnaisse. Il faut que la mise en page soit très lisible. C'est pour ça que je trouve que le dessin humoristique c'est pas un art. C'est un art populaire. Voilà. Ça serait un art populaire. Ce serait un art premier.
À Venise, ville exquise, j'arrivais pour le carnaval. À l'auberge de la berge, je laissais dormir mon cheval. Et fantasque comme un masque, je courus droit au corso, en chantant dans la bourrasque ce refrain de Caruso. Quand j'étais jeune en dette, en dentelle, en bonnet pétard, je passais pour voir ma belle à travers cheminées et placards. Dans la rue, la cohue, une belle signorina me fait signe qu'elle est digne d'entrer dans la danse avec moi. Je l'emporte à demi-morte, elle tombe dans mes bras. Mais sa mère, en colère, nous menace et crie là-bas. Ramenez-moi donc ma fille, cavalier, chevalier du guet. Je suis vieille et sans famille, je suis veuve et je suis fatigué.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Luz.
Donc vous, en fait, vous entendez plutôt Cabu qui chante Traîner quand vous entendez Traîner qui chante ça?
Ouais, complètement, ouais. Et surtout, je le vois, en fait. Je le vois avec les mains complètement en l'air, virevoltant et se cassant la voix et en étant plus le petit élève appliqué que l'on voit au bouclage. Tout d'un coup, c'était un zébulon, quoi.
Dans Indélébile, vous le dessinez chanter devant une affiche de Johnny Hallyday, en effet, après un bouclage, et on l'entendait juste avant dans une archive de 2007, être très précis sur ses techniques, extrêmement précis sur son, presque sa vision du dessin, dessin satirique.
Et c'est formidable parce que dans cette interview, il y a absolument tout. Il y a tout Cabu et tout son enseignement, c'est-à-dire sa vision aussi de la caricature, le fait qu'une caricature est un kaléidoscope de toutes les caricatures que vous pouvez faire.
Et c'est qu'il y a 15 types humains et qu'en gros il faut bien savoir dans quel type humain on tape quand on commence une nouvelle caricature, et qu'il vaut mieux les regarder à la télévision parce que comme ça on les voit longtemps et on les voit sous tous les angles.
Oui, c'est aussi, en fait il y a aussi ce truc du ressassement. En fait, pour faire une bonne caricature, faut ressasser visuellement, faut ressasser auditivement, c'est-à-dire savoir écouter les discours, les informations, faut plonger dans une espèce de, faut accepter de plonger dans une espèce de litanie d'actualité, et puis au milieu de ce truc-là, sortir un personnage, sortir une idée, et sortir une vérité. C'est vrai qu'on n'était pas, on s'était engueulé une fois sur justement cette différence entre la, moi je parlais de la caricature juste et lui la caricature ressemblante, et en fait on était d'accord, c'est au bout d'un moment on s'est fâché 2 heures à cause de ce truc là, mais lui c'est avant tout la caricature, c'est de la technique, et puis le premier truc aussi c'est le résultat, et le résultat c'est le lecteur, c'est celui qui est en face et qui va découvrir ce dessin. Il va falloir que tout de suite, au premier claquement de doigts, il reconnaisse.
Et il n'est pas avare de transmission. Vous le dessinez dans Indélébile, Luz, en train de vous apprendre à dessiner dans une poche, en train de vous emmener dans une académie de dessin pour travailler vos nus, en train de vous filer des conseils, justement dans ces moments de bouclage. C'est vraiment une sorte, c'est évidemment pas du tout le seul que vous dessinez dans Indélébile, mais c'est une sorte de fil conducteur assez important, quasiment une sorte de figure tutélaire, presque paternelle. Est-ce que c'est parce que vous aussi, vous avez ressassé Cabu que vous l'avez si bien dessiné? Parce que ça devait pas être simple de le dessiner, lui.
Oh, ça a toujours été. C'est pas le plus compliqué à dessiner, mais pour le dessiner dans Indélébile, il y a un dessin, le premier dessin de Cabu que j'ai fait, qui est un Cabu donc sans lunettes. Et là, il a fallu reconstruire le personnage. Là, c'était, je pense que c'est le dessin qui m'a pris, ça a pris une journée, donc c'est pas énorme, mais c'est beaucoup pour moi. Mais plus de temps, parce qu'il fallait là-dedans que je dessine non pas le personnage, mais la réalité du bonhomme, la justesse. Peut-être la justesse. Il m'engueulerait, en fait, s'il était là. Il me disait, non, t'as essayé de faire en sorte que je sois ressemblant, etc. Et en plus, lui se dessinait toujours pas très beau. Enfin, toujours un peu décati, étonnamment. Toujours avec des poils sur le nez. Enfin, il avait un peu de poils sur le nez, mais c'est pas... Mais beaucoup trop, en fait. Il se caricaturait assez... mal. C'est comme les diseuses de Bonaventure, elles savent pas lire leur propre avenir, en fait. C'est la même chose. Lui, il arrivait pas. Je trouve que son propre dessin de lui-même était, c'est la seule caricature qui réussissait pas.
Et votre dessin de vous-même à vous? Elle bouge, hein?
Ça bouge? Ah bah oui, ça bouge. Bah
ça bouge tout le temps. Au début de Catharsis, vous êtes cet homme hébété aux grands yeux à qui on demande qu'est-ce que vous avez vu le 7 janvier. Et puis parfois, vous êtes un corps délié en train de faire l'amour, juste avec des traits sublimes. Et ça veut pas dire que le bonhomme hébété n'est pas beau. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment des vous, il y en a plein, en fait.
Oui, mais parce qu'il y a plein de...
D'états?
Il y a plein d'états et justement, le dessin est là. Et là, pour raconter ces différents états. Moi, j'ai jamais autant utilisé de matériaux, en fait, de d'ustensiles pour dessiner. Pas forcément pour me dessiner moi, mais pour dessiner toutes ces émotions, parfois nouvelles, qui m'ont traversé. Et moi, je faisais pas de plumes. C'est un peu technique, mais moi j'aime bien.
J'adore.
Plus, j'aime bien parler de technique, en fait. Mais par exemple, le pinceau, moi j'ai commencé au pinceau. J'ai commencé au pinceau avec l'encrier, tout ça, là, le truc qui met les doigts tous les dégueulasses, là, aujourd'hui. Et c'est une énorme sensualité. Parce que vous touchez jamais le papier, ça ne crisse jamais. Il y a juste. On n'entend rien, en fait. On n'entend rien. Alors le marqueur, c'est beaucoup plus, comment dire...
Sonore,
tâcheron, etc. Et puis, un jour, j'ai découvert le feutre pinceau. Alors là, c'était incroyable, parce que avec ça, je pouvais faire des croquis. C'est très chiant la technique du dessin.
Ah non, moi j'adore.
C'est très chiant la technique du dessin. Mais y avait non seulement cette sensualité, mais une sensualité que je pouvais emmener dehors. Et je pouvais dessiner des concerts avec un pinceau, c'était fantastique. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un truc, j'en sais rien, je suis revenu au pic-pic. Pic-pic, c'est le bruit de la plume dans l'encrier quand il n'y a pas beaucoup d'encre, c'est fait pic-pic. Je suis revenu au pic-pic, je suis revenu au screech, je suis revenu à la nécessité d'entendre le trait se fabriquer, comme Cabu faisait d'une certaine manière. Et en même temps, j'ai pas perdu le pinceau, j'ai d'autres techniques, j'utilise la main, les doigts, parce que c'est un peu con, mais en fait, toutes ces 23 ans de Charlie à faire des croquis, des BD, du dessin satirique, j'ai utilisé ça pour raconter l'actualité, donc brasser la diversité de l'actualité. Bah maintenant, je pense qu'il est temps d'utiliser ça pour brasser la diversité des sentiments.
Mon premier reportage, ça s'appelait « Sur les traces de Boat People ». Et je suis allée à Hong Kong et au Vietnam. C'était la première fois que je faisais du dessin en direct. Et ça a été un choc déterminant, puisque à la suite de ça, je me suis dit que j'étais faite pour ça. Mais d'aller dans les camps de réfugiés, rencontrer des gens qui ne me parlaient pas, puisque eux parlaient vietnamien. Et ce que j'ai compris, c'est que l'aquarelle va au-delà des mots et au-delà de l'apparence. En fait, ces gens-là ne parlaient pas par les mots, mais par leur regard. Et les regards de ce livre, je débutais, mais le regard de ce livre prenait littéralement le pinceau. Et au travers de ces regards, c'était la tragédie de ce qui vivait que je pouvais exprimer.
«
Attends, je m'explique mal. Où est mon autre carnet? Lui, c'est Renaud. C'est un chanteur français très très connu et très engagé politiquement à gauche. Comme Bono, si tu veux. En plus antimilitariste. En tout cas, en France, Renaud est tellement une star qu'on l'appelle Renaud le chanteur. Si c'est une star, pourquoi il vient faire un concert au centre culturel croate à Zenica et pas dans un stade? J'y viens. Lui, c'est Yakov. Il dirige une obscure association pacifiste qui a convaincu Renaud le chanteur de venir en ex-Yougoslavie, faire une tournée pour la paix et chanter pour toutes les communautés. Renaud, c'est une star, mais il est très gentil. Un peu trop, peut-être. Le type qui pisse face aux ruines en sifflant de l'opéra, c'est Philippe. Il est chanteur, musicien, humoriste et aussi rédacteur en chef du journal où je dessine, Charlie Hebdo. C'est assez connu en France, satirique et très à gauche, comme Renaud. Philippe se la pète un peu, mais il peut être assez marrant. Pour l'instant, on a fait seulement deux concerts, un à Vitesse et un autre à Starry Vitesse. Yakov voulait nous faire jouer à Travnik, mais on l'a refusé. Vous avez eu raison, c'est sous pression des Serbes en ce moment. Je peux regarder tes dessins? Oui, bien sûr, prends ton temps. Je dessine le bâtiment d'en face sur un nouveau carnet.
Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne. Des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a cent. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand.
1995, tournée spéciale pour le chanteur Renaud, ou Renaud le chanteur, comme vous le désignez, Luz, dans ce reportage. Vous vous dessinez dans un délébile en reportage pour Charlie Hebdo. Peut-être que c'est aussi des choses qu'on sait un petit peu moins, par exemple en Serbie, mais aussi dans des quartiers populaires, dans des cités, où vous vous retrouvez dans des situations rocambolesques, là aussi d'ailleurs, dans des situations où finalement vous vous attrapez un peu la trouille, parce que dessiner c'est à la fois un passeport et parfois ça vous met dans des situations un petit peu délicates. On entendait juste avant Noëlle Ehrenschmidt parler de la manière dont elle justement elle utilise l'aquarelle pour le reportage. Vous, ça a été quel genre d'apprentissage, le fait d'aller en reportage, de dessiner sur le vif?
Déjà c'était sortir de chez soi. Alors déjà, j'étais sorti de ma Touraine pour aller à Paris. Après, j'étais dans un petit appart de 10 mètres carrés. Et après, il fallait bien que quelqu'un se fasse des reportages. En tout cas, les reportages que Cabu pouvait plus faire. C'était aussi ce truc-là. Cabu était trop reconnaissable pour faire des reportages dans les manifs de gens d'extrême droite ou autres. Et du coup, moi, il y avait moi avec ma tête de... ma tête d'adolescent qui avait du lait qui sortait du nez, quoi. Et donc c'était faisable, en fait. Je pouvais aller partout, et puis voilà, j'avais pas de copine, j'étais puceau, j'ai pu très longtemps faire de reportages.
Y compris au RPR.
Donc, dans les endroits les plus reculés, des tribus les plus étonnantes qu'on avait sous la main. Et c'était ça aussi, je pense que j'ai appris je suis revenu aux fondamentaux de ce qu'était le dessin aussi, avec le reportage, de ce qui était mon dessin, c'est-à-dire dessiner les gens de ma famille, c'est-à-dire de reconstituer les gens qui sont autour de moi. Et c'était indispensable. Camus tenait aussi beaucoup là-dessus. C'était indispensable d'aller voir ce qui se passe. On pouvait pas être derrière, toujours derrière sa radio ou son poste de télévision pour parler du monde qui nous entourait. Et effectivement, le monde qui nous entourait, c'était pas que des hommes politiques et quelques people. C'était aussi des vrais gens, et puis fallait on partait à l'aventure, on savait pas forcément ce qu'on allait ramener. Est-ce qu'on allait ramener des emmerdes déjà? Est-ce qu'on allait ramener un bon reportage? Est-ce qu'on allait ramener des bons dessins?
Parfois un peu tout, quoi, des emmerdes, un bon reportage.
Exactement,
et des dessins.
Ce qui était le cas justement, par exemple en Bosnie, où finalement je me suis retrouvé dans un, enfin voilà, c'était, je me suis retrouvé chopé par l'armée bosniaque qui m'a emmené dans son QG militaire. Donc j'étais entouré de Kalachnikov, et puis j'étais pas tout à fait jugé, mais j'ai vu un juge militaire qui en plus était serbe, enfin un gros bordel, enfin le bordel de l'ex-Yougoslavie, et finalement je m'en suis sorti en faisant un petit dessin pour une petite caricature du monsieur. Il était très content de sa caricature. Je sais pas s'il est encore vivant. Mais voilà, le dessin, c'est un truc bizarre. Ça vous aide à... Moi, ça m'a aidé à comprendre le monde qui m'entoure, mais aussi à aller au plus près de ce monde qui m'entoure.
Oui, on a l'impression à vous lire que non seulement c'était l'état d'être au monde de tous ceux qui vous ont entouré à Charlie pendant ces années-là, et de probablement ceux qui font encore ce journal-là, mais aussi que c'est votre état d'être au monde, en fait, que vivre votre vie, c'est un peu la dessiner. Si bien qu'au début de Catharsis, quand vous racontez que ce dessin-là, il a voulu à un moment donné ne plus être là, et que votre main n'a plus voulu dessiner, on se demande quel pouvait être votre état au monde sans le dessin.
Un gouffre. Et c'est vrai que Catharsis a été là pour...
Quel titre du précédent livre.
Et c'était bizarre parce que c'était pas tout à fait un livre, c'était juste une réappropriation du dessin,
du geste.
Et puis de manière complètement erratique, le dessin, il est pas toujours très fiable dedans, il est pas toujours très très beau. Et en fait, moi j'aime bien l'idée qu'un dessin raconte un état. Que le dessin, s'il est raté, il raconte, voilà, quelque chose. Ou si vous dessinez dans un festival, il raconte de votre. Si c'est très abstrait, ça veut dire que vous n'êtes pas embêté finalement pendant ce festival, que vous n'êtes pas, que ça a été un bon concert de Motorhead, par exemple. Et il y a, Catharsis, c'était une espèce de, on va dire, de retrouvailles. Et après, peut-être indélébile, c'est un truc de dire, on se retrouve, c'est bien. Moi et le dessin, on se retrouve, c'est super. Maintenant, il faut que je t'avoue un truc, c'est que vraiment, c'est toujours eu dans la peau, quoi. C'est un peu une histoire, c'est une petite histoire d'amour, quand même. Si, ouais, je pense.
On nous dit, le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors, si on faisait un pas de côté? Si on essayait autre chose, si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on ne voit jamais.
Qu'est-ce que tu fais?
Je regarde dans ma tête.
Si on faisait un pas de côté, les queues ne tomberaient plus en face des guichets. Qu'est-ce qui se passe? Si on faisait un pas de côté, les fusils ne tomberaient plus en face des soldats.
Qu'est-ce que tu fais?
Eh ben, je m'amuse.
Si on faisait un pas de côté, les coups de pied n'arriveraient plus au cul.
J'ai fait un pas de côté, je me suis retourné, il a fait aussi un pas de côté et pan, je l'ai pris dans la gueule.
Si on faisait un pas de côté, au lieu de sonner chez soi, on sonnerait chez le voisin. Et si on arrêtait tout?
Ça vous fait rire, vous le connaissez quasiment par cœur, Luz.
Oui, c'est l'an 01 de GB, c'est ma bible utopique. C'est le film que GB avant d'être un film, c'était d'abord des pages que GB a réalisées dans Charlie Hebdo, peut-être. Est-ce que c'était dans Harakiri Hebdo à l'époque, déjà, encore? Non, dans Charlie Hebdo, je crois. Et après, il en a fait un film avec Doyon, et Jean Rouch aussi, qui fait une petite scène aussi dedans. Et, Et voilà, ça, c'est très chouette, c'est très agréable d'entendre ces propos-là, d'entendre cette poésie-là, parce que c'est une poésie qui, à mon avis, tout à fait, l'utopie est tout à fait contemporaine. Et putain, c'est aussi, il y avait ce truc, j'avais envie de parler aussi de gens comme, de quelqu'un comme GB, qui a été, voilà, ça n'a pas été mon mentor du dessin, quoique, mais ça a été surtout, c'était surtout celui qui m'a appris à, pas appris, mais qui m'a peut-être laissé quelques clés pour penser. Et puis, comme dans L'an 01, on prend les clés et après on les jette. C'était nécessaire aussi de parler de GB comme j'ai jamais su si c'était un grand-père ou un mentor ou un copain, ou un penseur, c'était juste une figure qui donnait un petit peu de qui mettait un petit peu de môme au cœur dans une société un peu absurde, qui permettait de voir un petit peu plus loin.
Et qui était assez subtil, si on en croit les dessins que vous faites de lui, Luce, parce que dans cette manifestation, où j'ouvrais notre conversation avec ces mots, où il vous dit « Bon, on n'est jamais sûr, peut-être on ne sait pas exactement ce qui peut ou pas changer le monde, mais en même temps, moi, mes dessins, ils ont bien changé ta vie. Puis regarde, en fait, ton dessin, il est repris sur une pancarte dans une manif. » C'est-à-dire qu'à la fois, on sent des gens très impliqués et appliqués à faire ce qu'ils font, mais qui sont aussi pleins de, sinon d'incertitudes, en tout cas de pensées autour de ça, quoi. Voilà, c'est pas non plus, la chose n'est pas une ligne droite, quoi.
Ben, en fait, en même temps, faire un dessin, c'est pas. Vous pouvez faire un dessin, ça peut pas être une ligne droite. C'est forcément quelque chose de courbe. Et en plus, y a le fait de faire un dessin, de se faire marrer ou de faire marrer les copains. Et après, on sait pas. On sait pas on sait pas comment ça va être reçu. Et à ce moment-là, ça ne vous appartient plus. Et c'est peut-être ça aussi aussi quelque chose qui est important dans le dessin, c'est qu'il faut avoir aussi cette humilité qui est dire un dessin ça c'est évanescent, en fait ça part dans l'espace, ça part dans la tête des gens,
un peu comme la vie et les souvenirs. En lisant, on se dit, bon, il y a pas très longtemps, Riyad Sattouf était venu parler ici de l'Arabe du futur, et il parlait de la très grande précision de tous ces souvenirs, et on sent que pour vous ça a fonctionné différemment, les choses sont revenues, on fait des allers-retours. Est-ce qu'il y a des souvenirs que vous pensiez récupérer qui ne sont pas revenus? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous sont revenus et qui vous ont surpris? Est-ce qu'il y en a que vous avez cherché et que vous n'avez pas retrouvé?
Je les ai tous cherchés. Tous cherchés. Parce que c'est un petit peu... Parce que voilà, la tête, des fois, ça peut être un grand bazar. Et puis surtout, quand un jour, il y a plein de choses qui s'effondrent. Alors du coup, ça devient... Voilà, il faut chercher tous ces souvenirs parmi les décombres. Et alors... On fait quelque chose qui n'est pas forcément facile. On va dans les archives, on va regarder les photos, on va se remettre dans cette ambiance. Et puis, par exemple, l'extrait audio que vous avez passé de la Grosse Bertha il y a de cela, donc 26 ans, mon Dieu. Eh bien, on y est. Mais c'est fragmentaire. Il faut prendre une tête de l'un, le rapprocher de l'autre, retrouver des bribes
de conversation.
Et en fait, on se rend compte que la vie, c'est pas monolithique. Et les souvenirs sont à l'image de ça. C'est quelque chose de... C'est de la poussière, en fait. Et il a fallu faire bouger... Toute cette poussière pour essayer de fabriquer une mémoire, et qui n'est pas que la mienne, je pense. C'est aussi une espèce de mémoire collective. Et je pense que c'est la chose la plus importante, c'est de dire que la mémoire collective par rapport à Charlie, en tout cas pour ceux qui ont connu Charlie avant, avant que ça devienne synonyme d'une tragédie, que Charlie, c'était dans la mémoire collective, c'était un journal avec lequel on n'était pas forcément d'accord, un journal de dessinateur, un journal avec lequel on se marrait ou à côté duquel on s'énervait, et que c'est un journal qui a changé la vie des gens aussi, de pas mal de gens, en tout cas la mienne.
Est-ce que dans les décombres, comme vous dites parfois, vous vous êtes dit peut-être le pas de côté, je vais pas y arriver en fait, le pas de côté de l'an 01, je vais plus y arriver.
Après le...
Oui, après le 7 janvier.
Ben, ouais. C'est exactement ce qu'il y a finalement dans cet extrait que je connais presque par cœur, où justement le type dit j'ai fait un pas de côté, l'autre a fait un pas de côté, finalement je l'ai pris dans la gueule. Et ça, c'est un petit peu ce truc-là. À un moment donné, il faut refabriquer, je dirais pas son identité, mais refabriquer un peu ce qu'on a dans le crâne. Et puis finalement, quand on se rend compte que qu'on ne peut pas tout refabriquer, que tout est un peu épars, qu'on sera changé à jamais. Bah, finalement, il y a peut-être plein d'autres pas de côté à faire. Pas de côté, c'est peut-être se dire, oh, tiens, c'est marrant, peut-être on peut faire un gamin, tiens, finalement. J'ai survécu à un attentat, je peux survivre au fait de faire des couches, de changer les couches. Donc peut-être mon pas de côté, il était là.
Il y a, et ce sera ma dernière question, quelque chose de l'ordre du désir. Vous disiez tout à l'heure que l'idée c'était de se réapproprier le passé, que le présent n'était pas forcément simple et que le futur n'était pas forcément simple non plus. Alors comment expliquez-vous qu'il y a du désir dans ce livre-là ?
Parce qu'il y a eu...
Je parle de toute forme de désir, désir sexuel, mais aussi du désir de dessiner, peut-être le désir de faire un pas de côté, peut-être celui d'imaginer d'autres aventures collectives, chacun à son échelle. Enfin, je veux dire, c'est porteur de ça aussi.
Moi, je crois que ça, c'est chouette de me dire ça, parce que je pense clairement que c'est un bouquin lumineux, vraiment, vraiment lumineux. Et
ça ne veut pas dire que ça se lit pas à la gorge serrée.
Mais ouais, oui, et puis il y a aussi un truc, et puis merde en fait. Finalement maintenant j'ai une palette d'émotions que je connaissais pas toutes avant, que j'utilisais pas et que j'ai bien envie d'utiliser. J'ai bien envie d'utiliser la mélancolie, j'ai bien envie d'utiliser l'hystérie, j'ai bien envie d'utiliser la profondeur, j'ai bien envie d'utiliser le noir profond comme la lumière éclatante ou comme les couleurs un petit peu délavées, c'est encore le truc qui pêche. Je pense qu'il va falloir que je travaille un peu sur les couleurs. Il va falloir... voilà, j'ai plein d'années, j'espère, plein d'années devant moi pour travailler la couleur.
Au boulot. Merci beaucoup, Luz. Indélébile et Catharsis, c'est les deux ouvrages dont on a parlé ce soir chez Futuropolis. Merci.
Merci beaucoup.
Au son ce soir, c'était Bernard Laniel à la réalisation Charlotte Roux. Vous pouvez réécouter cette émission quand vous voulez sur franceculture.fr, vous abonner au podcast de Par les temps qui courent sur franceculture.fr, trouver la liste des archives et des musiques diffusées à la page de l'émission. Un immense merci à Jeanne Aléos, Anna Baron, Romain Debec de Lièvre, Lou Quevauvillier, Marianne Chassor. Je vous souhaite une excellente soirée sur France Culture. Dansez maintenant.